Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Indonésie. Voici le journal d'aujourd'hui. En 2017, le ministère du Commerce continue de se concentrer sur la revitalisation. Le taux d'inflation de l'Indonésie en 2016 est le plus bas depuis 2010. L'armée nationale indonésienne attend les résultats des enquêtes de l'Australie. Riamiza Ratchudu, le ministre de la Défense de l'Australie, a présenté ses excuses. Darmin, l'époque d'une transition d'économie digitale dans 10 ou 15 ans. Voici le journal complet. Le ministère du Commerce de l'Indonésie a réalisé de bonnes performances en 2016. En 2016 et en 2017, le ministère du Commerce a continué à effectuer le mandat du président indonésien Joko Widodo de maintenir trois principales politiques, à savoir le commerce intérieur, le commerce extérieur et la réforme bureaucratique. Pour assurer la disponibilité des stocks et la stabilisation des prix et des produits de base, le ministère du Commerce a réussi à contrôler les prix des produits de base. Le ministre du Commerce, Enggartia Solukita, lors de la conférence de presse à Jakarta, mercredi, le 4 janvier 2017, a déclaré que le taux d'inflation en 2016 était de 3,02%. Cette inflation est la plus basse depuis 2010, donc les prix des produits de base sont stables et ont tendance à diminuer.
Seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi di 2016 adalah terendah dan kita.
Comme je l'ai dit, l'inflation en 2016 était la plus faible et nous pouvons dire que les prix des produits de base sont stables et tendent à diminuer ces derniers temps. Le riz, le poulet, les œufs, le bœuf et le sucre étaient stables en 2016. C'est ce que nous avons réalisé et il n'y a eu aucune fluctuation à la fin de l'année. Le ministre Enggartia Stoa a affirmé que le succès du gouvernement pour contrôler les prix des produits de base à la fin de l'année était dû au ministère du Commerce à assurer la fourniture de produits de base. Le ministère du Commerce a également parlé ensemble et a invité tous les fabricants et les distributeurs à ne pas augmenter les prix des produits de base. Le ministre Enggartia Stoa a également expliqué que par rapport à l'inflation de 2015 de 3,35%, qui a contribué du riz de 0,31%, 0,15% de viande et de poulet, et les oignons de 0,15%. L'inflation en 2016 indiquerait qu'il n'y avait pas de contribution du riz et de la viande de poulet. Il a également dit à l'avenir il va intensifier la mise en œuvre de l'enregistrement d'entrepôts pour stocker les marchandises dans l'entrepôt. Le ministre s'engage également à réactiver les panels d'experts des prix des produits de base pour réduire les disparités de prix entre l'Ouest et l'Est de l'Indonésie. Des débouchés maritimes seront développés. En 2016, le ministère du Commerce a revitalisé jusqu'à 878 marchés folkloriques. Le programme de revitalisation du marché a appliqué la norme nationale indonésienne du marché folklorique et a développé la conception ou le prototype du marché folklorique moderne avec la conception de type A, type B, type C et type D. Le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, lors d'une conférence de presse à Jakarta récemment, a déclaré que depuis 2016, le développement et la revitalisation des marchés traditionnels sont devenus l'attention du ministère du Commerce. Selon lui, l'amélioration et l'augmentation du marché fournit un impact sur les transactions sur le marché.
Dari beberapa data yang ada, maka kenaikan dari...
À partir de certaines des données existantes, l'augmentation du marché confortable qui a été rénové peut atteindre plus de 100%. En raison de la facilité des gens, la commodité des achats et diverses autres choses. Le marché devient prioritaire, même le président a réaffirmé. Pour 2018, il a livré 3 à 5 fois le montant du budget. Parce que la réalité du commerce des gens est le marché. Et le marché reflète la culture locale. En 2017, il deviendra notre priorité, notre attention. Le ministre Enggartia Stolokita a ajouté à partir de 878 marchés qui ont été revitalisés, 168 marchés ont financé à travers la tâche d'assistance et étaient 710 marchés à travers l'allocation des fonds spéciaux du budget de l'État. En 2017, le ministère du Commerce est engagé à la construction ou la revitalisation du marché populaire, atteignant 272 unités provenant du fonds de la tâche d'assistance. Pour remplir les objectifs de 1000 marchés, la construction du reste proviendra du fonds d'affectation spéciale qui a été alloué à la régence ou aux villes. Le ministère du Commerce a également organisé la formation professionnelle pour augmenter la capacité de la gestion du marché. Le commandant de l'armée nationale indonésienne ou Tentara Nasional Indonesia, ou TNI, le général Gatot Nurmantio, jeudi à Jakarta, a dit que l'armée nationale a suspendu la coopération militaire entre l'Indonésie et l'Australie. Cette suspension était causée par une insulte qui a discrédité l'armée et la nation de l'Indonésie par l'Australie. Gatot Nurmantio a dit qu'il avait reçu une lettre d'excuse du commandant de l'armée australienne, le marshal de la force aérienne Mark Binskin, qui mentionnait entre autres qu'il mènerait une enquête sur cet incident. Gatot Nurmantio a confirmé que la suspension de la coopération militaire se ferait jusqu'à ce que l'enquête ait été menée. Il m'a déjà envoyé une lettre d'excuse. Deuxièmement, ils vont améliorer le curriculum. Troisièmement, ils vont mener une investigation. Ensuite, quatrièmement, ils vont déployer les chefs de l'armée australienne à me rendre visite pour s'excuser directement. À partir de ces 4 points, comme je le considère personnellement comme un ami proche, je lui ai également envoyé une lettre de remerciement comme une réponse. Mais nous avons encore suspendu notre programme de coopération militaire après que l'investigation concernant ces cas aurait fini. Pendant ce temps, le professeur du droit international de l'Université d'Indonésie, Hikmahanto Juwana, a dit que l'action du commandant de l'armée nationale indonésienne de suspendre temporairement la coopération militaire avec l'Australie était une bonne étape. Il a dit que cet incident avait pu démontrer en Australie par ses fonctionnaires de ne pas facilement commettre des actes de harcèlement contre des personnalités indonésiennes et aussi dégrader des cas sensibles qui se font en Indonésie. Le ministre indonésien de la Défense, Riamizar Tratudu, a déclaré le ministre australien de la Défense, Maurice Payne, a présenté ses excuses à l'Indonésie jeudi matin liées au cas d'abus commis par l'un des membres de la force de défense australienne. Riyamizar Chatudu a déclaré jeudi à Jakarta qu'en plus d'envoyer une lettre d'excuse, Maurice Payne lui a aussi téléphoné le jeudi après-midi et a de nouveau exprimé son regret sur le cas de violence Pancasila impliquant des membres de la force de défense australienne. Selon Riyatudu, son homologue australien a également déclaré qu'il étudiera et résoudra cette question. Riyamizar Chatudu accepte les excuses et respect de l'attitude de l'Australie. Le ministre de la coordination économique, Darmin Nasution, a dit que dans 10 jusqu'à 15 prochaines années, l'Indonésie serait entrée dans une période de transition de l'économie digitale. Darmin Nasution, lorsqu'il transmettait un discours scientifique de l'économie digitale pour soutenir l'esprit d'entreprise, à une réunion ouverte de Sénat de l'Université Brawijaya à Malang Java Est, a déclaré jeudi que l'Indonésie avait besoin de profiter de la réalité du développement digital par la formulation de la réglementation afin que les avantages puissent être optimisés pour le bien de la croissance et de la distribution économique. L'un parmi eux est l'autonomisation du secteur de l'entreprise micro, petite et moyenne, comme un pilier de l'économie créative visant à être en mesure de jouer un rôle dans le commerce mondial par le commerce électronique ou e-commerce. Par conséquent, le gouvernement a une vision qu'en 2020, l'Indonésie serait devenue le plus grand pays d'économie digitale en Asie du Sud-Est.
C'est l'antenne, comme d'habitude, après le journal. Maintenant, vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, maintenir des bonnes relations entre l'Indonésie et l'Australie. Les relations entre les pays voisins peuvent connaître des hauts et des bas ou s'aggraver, comme les relations entre l'Indonésie et l'Australie actuellement. Récemment, les relations entre les deux pays, notamment en termes de défense ou de coopération militaire, ont confronté à des perturbations. L'action qui insulte Pancasila par en participant à l'éducation militaire australienne a déclenché une nouvelle escalade. Temporairement, l'Indonésie a suspendu la coopération militaire avec l'Australie. Le chef du centre d'information du quartier général de la TNI, le major général Wuryanto, a expliqué le 4 janvier que l'Indonésie avait suspendu temporairement certains aspects de la coopération, y compris la formation, l'éducation et l'essence des visites entre les officiers. En ce qui concerne ce cas, le commandant en chef des forces armées australiennes, le maréchal de la force aérienne, Mark Binskin, a envoyé une lettre au général Gatot Nurmantio et a déclaré que l'incident dans l'installation de formation linguistique de l'armée australienne menée par un stagiaire qui a insulté Pancasila sera enquêté et traité sérieusement. Le président Joko Widodo a déclaré que ce qui s'est passé entre l'Indonésie et l'Australie ne perturbe pas les bonnes relations des deux pays. Wiranto, ministre de la Coordination des Affaires politiques, juridiques et de sécurité, a également clarifié que ce qui a été fait par le général de la TNI, le général Gatot Nurmantio, et comme réaction de l'action dans la formation militaire australienne, ne signifie pas que la cessation de la coopération globale de défense. Le problème, selon le gouvernement indonésien, ne perturbera pas les relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Australie qui ont bien fonctionné. Les hauts et les bas des relations entre l'Indonésie et l'Australie se sont produits à plusieurs reprises. Auparavant, à l'époque de l'administration précédente, le président Susilo Bambang Yudhoyono avait pris des mesures fermes pour décider de la coopération de plusieurs domaines avec l'Australie, comme le cas des codes téléphoniques menés par la partie australienne à un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'Indonésie. Avec quelques cas qui conduisent à l'escalade des relations entre les deux pays voisins, l'Australie déclenche toujours la perturbation au lieu de l'Indonésie. En conséquence, le gouvernement australien fait toujours des clarifications et assure que les bonnes relations seront toujours maintenues. La question est de savoir pourquoi l'incident qui a perturbé la communication et les relations entre les deux pays a perturbé. Si le gouvernement central de l'Australie à plus haut niveau a toujours reflété un engagement à maintenir de bonnes relations, l'engagement du niveau inférieur devrait également être le même. La sévérité pour maintenir de bonnes relations doit s'appliquer à tous les niveaux. L'étape en compact peut indiquer qu'il y a un fait malentendu et peut être défavorable dans la compréhension de l'importance de maintenir de bonnes relations. En particulier dans le domaine de la défense, la compréhension holistique devient très importante parce que la défense est l'un des fers de lance dans le maintien de la paix et l'image de soi dans l'État. L'Indonésie espère que l'incident qui a causé la perturbation de la communication et la coopération dans la défense ne se reproduise pas et que la partie australienne peut bien comprendre et être plus sagesse. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces auditeurs, ces auditrices du monde entier, voici notre programme quotidien, l'histoire d'aujourd'hui, l'édition le 6 janvier. On va commencer le 6 janvier 1919, mort de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt a occupé deux mandats au poste de président des États-Unis entre 1901 et 1909. Né en 1858, il était le plus jeune président des États-Unis. Il est considéré par les Américains comme un de leurs plus grands présidents. Il est ainsi représenté sur le mont Rushmore aux côtés de George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln. Il mourut à New York le 6 janvier 1919 des suites des fièvres tropicales qu'il avait contractées en Amazonie lors d'une expédition scientifique. En chance, le 6 janvier 1931, Thomas Alva Edison a déposé sa demande de la dernière brevet pour cette invention. Thomas Alva Edison était un inventeur qui a développé de nombreux équipements importants. Alva Edison était l'un des premiers inventeurs d'appliquer les principes de la production de masse pour les processus de l'invention. En 1870, Edison a inventé la machine télégraphique MIE. Les machines peuvent imprimer des messages sur une longue bande de papier. En 1879, Edison a découvert la lumière électrique, puis il a aussi trouvé projecteur pour le petit film. Edison a considéré comme l'un des créateurs les plus prolifiques de son temps, détient le record 1093 brevets à son nom. Dans le domaine de l'électricité, Edison non seulement a développé des idées à l'obtention de l'ampoule électrique, mais il a également développé plus loin jusqu'à ce que l'ampoule électrique est utile dans la pratique commerciale et a gagné beaucoup de succès. Le 6 janvier 1931, Thomas Edison a déposé une demande de brevet pour cette dernière invention. Le 18 octobre 1931, il est mort à l'âge de 84 ans. En chance, le 6 janvier 1980, Indira Gandhi a été réélectée comme la première ministre de l'Inde. Le voyage politique d'Indira Gandhi commence quand elle a été élue Premier ministre de l'Inde en 1966, en remplacement de l'ancien Premier ministre Lal Bahadur Shastri qui est mort. En 1971, Indira a remporté aux élections nationales et retourné au Premier ministre. Cependant, en 1975, il a été condamné pour avoir commis la fraude dans les élections en 1971. Indira a refusé la sentence et s'est déclarée innocente. Elle a ensuite imposé l'état d'urgence en Inde. Pendant cette période, Indira a contrôlé strictement divers aspects de la vie en Inde et a emprisonné de nombreux opposants. En 1977, Indira a tenu des élections pour amortir la critique qu'il a piétiné la démocratie en Inde. Cependant, cette fois, Indira Gandhi a perdu et on était éliminé de la présidence du Premier ministre. Lors de l'élection de 1980, Indira Gandhi a été réélue en tant que Premier ministre, mais le 31 octobre 1984, en raison de sa politique répressive contre le groupe Sikh, Indira s'est tiré son garde du corps Sikh sanglante. On termine le 6 janvier 1949, la Grande-Bretagne a admis la souveraineté de la République populaire de la Chine. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong a annoncé la fondation de la République populaire de Chine avec lui-même en tant que président. Pékin a été déclaré comme la capitale de la République populaire de la Chine. Le gouvernement de Mao a ensuite d'établir une relation avec l'Union soviétique de sorte que la nuit suivante, le gouvernement soviétique a déclaré sa reconnaissance de la République populaire de Chine et les relations diplomatiques coupées avec le gouvernement de la République de Chine à Taïwan, nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek. Les États satellites de l'Union soviétique, les États participants pour les reconnaissances de la République populaire de Chine, l'ont aussi reconnu la souveraineté de la Chine le 30 décembre 1949 et a été suivi par l'Angleterre le 6 janvier 1950. Lorsque les Britanniques ont reconnu la souveraineté de la République populaire de Chine, en même temps, le gouvernement de la République de la Chine nationaliste a rompu ses relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. C'est ce litre du 10, c'était notre l'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition du 6 janvier. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, voici donc la mise au point et pour le titre, l'armée nationale indonésienne arrête la coopération avec les forces de défense australiennes. Le quartier général de l'armée nationale indonésienne, TNI, suspend la coopération militaire avec l'Australie. Jusqu'à présent, la coopération dans le domaine de la défense entre les deux pays a été considérée comme non rentable à l'Indonésie. Le chef du centre d'information du quartier général de TNI, le major général de Wuryanto, mercredi à Jakarta, comme cité par Republika, a expliqué TNI a décidé de suspendre la coopération militaire avec les forces de défense australiennes, ADF, après l'évaluation. Selon Wuryanto, il y a des problèmes techniques qui doivent être améliorés et perfectionnés pour intensifier les relations de ces deux pays. Tout est encore en cours d'évaluation. Wuryanto a confirmé la cessation de la coopération provisoire couvre divers aspects, entre autres la formation conjointe, l'éducation, les sanctions d'officiers jusqu'aux visites entre les responsables. En principe, cette coopération devrait être mutuelle bénéfique, le bénéfice mutuel et le respect mutuel. Un membre de la commission du Parlement, Bobby Adiato Rizaldi, qui soutient la mesure de TNI d'arrêter provisoirement toute la coopération militaire et les exercices militaires avec l'Australie. Le quartier général de TNI a déclaré que toute la coopération avec l'Australie serait réexaminée avant de décider de poursuivre ou non cette coopération. Il a confirmé que l'Australie doit respecter l'Indonésie comme partenaire égal et pas abusif. Sensément, la cause de la suspension temporaire est soupçonnée qu'il y avait les efforts de l'abus faits par l'Australie contre le symbole d'État, Pancasila, lorsque les forces spéciales Kopassus pratiquaient en Australie. Il a admis qu'il demanderait une explication à TNI liée à l'abusif présumé de l'emblème Pancasila. Pendant ce temps, la ministre australienne de la Défense, Maris Payne, a déclaré, comme cité par CNN Indonésie, que ce problème débute de la crainte d'un officier TNI concernant le matériel didactique dans un centre de formation linguistique de l'armée de terre dans son pays à la fin de l'année dernière. Selon Payne, le chef de la force australienne de défense, ADF, Mark Binskin, avait envoyé une lettre au commandant en chef de TNI, Gatot Nurmantio, afin d'assurer que ce problème serait étudié sérieusement. D'autre part, un membre de la commission Ando-Parlement, Supiadin Aris Saputra, estime qu'il n'y aura pas d'impact qui est trop grand que, lié à la coopération militaire entre les TNI et les forces armées de l'Australie, ADF, sur les relations bilatérales. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le ministère du Commerce de l'Indonésie a réalisé de bonnes performances en 2016. En 2016 et en 2017, le ministère du Commerce a continué à effectuer le mandat du président indonésien Joko Widodo de maintenir trois principales politiques, à savoir le commerce intérieur, le commerce extérieur et la réforme bureaucratique. Pour assurer la disponibilité des stocks et la stabilisation des prix et des produits de base, le ministère du Commerce a réussi à contrôler les prix des produits de base. Le ministre du Commerce, Enggartia Solukita, lors de la conférence de presse à Jakarta, mercredi, le 4 janvier 2017, a déclaré que le taux d'inflation en 2016 était de 3,02%. Cette inflation est la plus basse depuis 2010, donc les prix des produits de base sont stables et ont tendance à diminuer.
Seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi di 2016 adalah terendah dan kita.
Comme je l'ai dit, l'inflation en 2016 était la plus faible et nous pouvons dire que les prix des produits de base sont stables et tendent à diminuer ces derniers temps. Le riz, le poulet, les œufs, le bœuf et le sucre étaient stables en 2016. C'est ce que nous avons réalisé et il n'y a eu aucune fluctuation à la fin de l'année. La ministre Enggartia Stoa a affirmé que le succès du gouvernement pour contrôler les prix des produits de base à la fin de l'année était dû au ministère du Commerce à assurer la fourniture de produits de base. Le ministère du Commerce a également parlé ensemble et a invité tous les fabricants et les distributeurs à ne pas augmenter les prix des produits de base. Le ministre Enggartia Stoa a également expliqué que par rapport à l'inflation de 2015 de 3,35%, qui a contribué du riz de 0,31%, 0,15% de viande et de poulet, et les oignons de 0,15%, l'inflation en 2016 indiquerait qu'il n'y avait pas de contribution du riz et de la viande de poulet. Il a également dit à l'avenir il va intensifier la mise en œuvre de l'enregistrement d'entrepôts pour stocker les marchandises dans l'entrepôt. Le ministre s'engage également à réactiver les panels d'experts des prix des produits de base pour réduire les disparités de prix entre l'Ouest et l'Est de l'Indonésie, des débouchés maritimes seront développés. En 2016, le ministère du Commerce a revitalisé jusqu'à 878 marchés folkloriques. Le programme de revitalisation du marché a appliqué la norme nationale indonésienne du marché folklorique et a développé la conception ou le prototype du marché folklorique moderne avec la conception de type A, type B, type C et type D. Le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, lors d'une conférence de presse à Jakarta récemment, a déclaré que depuis 2016, le développement et la revitalisation des marchés traditionnels sont devenus l'attention du ministère du Commerce. Selon lui, l'amélioration et l'augmentation du marché fournit un impact sur les transactions sur le marché.
Dari beberapa data yang ada, maka kenaikan dari.
À partir de certaines des données existantes, l'augmentation du marché confortable qui a été rénové peut atteindre plus de 100%. En raison de la facilité des gens, la commodité des achats et diverses autres choses. Le marché devient prioritaire, même le président a réaffirmé. Pour 2018, il a livré 3 à 5 fois le montant du budget, parce que la réalité du commerce des gens est le marché. Et le marché reflète la culture locale. En 2017, il deviendra notre priorité, notre attention. Le ministre Ngartiasto a ajouté à partir de 878 marchés qui ont été revitalisés, 168 marchés ont financé à travers la tâche d'assistance et étaient 710 marchés à travers l'allocation des fonds spéciaux du budget de l'État. En 2017, le ministère du Commerce est engagé à la construction ou la revitalisation du marché populaire, atteignant 272 unités provenant du fonds de la tâche d'assistance. Pour remplir les objectifs de 1000 marchés, la construction du reste proviendra du fonds d'affectation spéciale qui a été alloué à la régence ou aux villes. Le ministère du Commerce a également organisé la formation professionnelle pour augmenter la capacité de la gestion du marché. Le commandant de l'armée nationale indonésienne ou Tentara Nasional Indonesia, ou TNI, le général Gatot Nurmantio, jeudi à Jakarta, a dit que l'armée nationale a suspendu la coopération militaire entre l'Indonésie et l'Australie. Cette suspension était causée par une insulte qui a discrédité l'armée et la nation de l'Indonésie par l'Australie. Gatot Nurmantio a dit qu'il avait reçu une lettre d'excuse du commandant de l'armée australienne, le marshal de la force aérienne, Mark Binskin, qui mentionnait, entre autres, qu'il mènerait une enquête sur cet incident. Gatot Nurmantio a confirmé que la suspension de la coopération militaire se ferait jusqu'à ce que l'enquête ait été menée. Il m'a déjà envoyé une lettre d'excuse. Deuxièmement, ils vont améliorer le curriculum. Troisièmement, ils vont mener une investigation. Ensuite, quatrièmement, ils vont déployer le chef de l'armée australienne à me rendre visite pour s'excuser directement. À partir de ces 4 points, comme je le considère personnellement comme un ami proche, je lui ai également envoyé une lettre de remerciement comme une réponse. Mais nous avons encore suspendu notre programme de coopération militaire après que l'investigation concernant ces cas aura fini. Pendant ce temps, le professeur du droit international de l'Université d'Indonésie, Hikmahanto Juwana, a dit que l'action du commandant de l'armée nationale indonésienne de suspendre temporairement la coopération militaire avec l'Australie était une bonne étape. Il a dit que cet incident avait pu démontrer en Australie par ses fonctionnaires de ne pas facilement commettre des actes de harcèlement contre des personnalités indonésiennes et aussi dégrader des cas sensibles qui se font en Indonésie. Le ministre indonésien de la Défense, Riamizar Tratudu, a déclaré le ministre australien de la Défense, Maris Payne, a présenté ses excuses à l'Indonésie jeudi matin liées au cas d'abus commis par l'un des membres de la force de défense australienne. Riamizar Tratudu a déclaré jeudi à Jakarta qu'en plus d'envoyer une lettre d'excuse, Maris Payne lui a aussi téléphoné le jeudi après-midi et a de nouveau exprimé son regret sur le cas de violence Pancasila impliquant des membres de la force de défense australienne. Selon Riatudu, son homologue australien a également déclaré qu'il étudiera et résoudra cette question. Riamizar Riatudu accepte les excuses et respect de l'attitude de l'Australie. Le ministre de la Coordination économique, Darmin Nasution, a dit que dans 10 jusqu'à 15 prochaines années, l'Indonésie serait entrée dans une période de transition de l'économie digitale. Darmin Nasution, lorsqu'il transmettait un discours scientifique de l'économie digitale pour soutenir l'esprit d'entreprise, à une réunion ouverte de Sénat de l'Université Brawijaya à Malang, Java Est, a déclaré jeudi que l'Indonésie avait besoin de profiter de la réalité du développement digital par la formulation de la réglementation afin que les avantages puissent être optimisés pour le bien de la croissance et de la distribution économique. L'un parmi eux est l'autonomisation du secteur de l'entreprise micro, petite et moyenne, comme un pilier de l'économie créative visant à être en mesure de jouer un rôle dans le commerce mondial par le commerce électronique ou e-commerce. Par conséquent, le gouvernement a une vision qu'en 2020, l'Indonésie serait devenue le plus grand pays d'économie digitale en Asie du Sud-Est.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous inviter à visiter la cascade de Citambur, située dans la province de Java West. La province de Java West possède beaucoup de destinations touristiques naturelles. L'un d'entre eux est la région de Cianjur. Sa site touristique est très célèbre pour le beau paysage, y compris la cascade de Citambur. La cascade de Citambur est située dans la partie sud de Cianjur, précisément dans le village de Karangjaya, le district de Pagelaran, la province de Java West. Pour aller à cette destination touristique naturelle, on peut utiliser le véhicule à quatre roues motrices ou deux roues. Si on part de Bandung, on peut conduire le véhicule dans Ciwidey à Kawah Putih. Et ensuite, le voyage est continué vers la plantation de Sinumbra jusqu'au village de Karangjaya. La cascade de Citambur possède un paysage naturel charmant. Elle est entourée par les arbres. Les touristes qui veulent profiter de la beauté naturelle de cette cascade, il est recommandé de venir pendant la saison de pluie parce que le paysage sera plus beau. Ceci a été causé par le rejet des eaux qui coulent d'une hauteur d'environ 100 mètres, sera plus et abondamment. En outre, les vignes qui couvrent les vallées et les herbes autour de la cascade seront plus vertes et luxuriantes que pendant la saison sèche. La cascade de Citambur est équipée de diverses installations pour les touristes, telles que le parc de stationnement, toilettes, salles de prière et aussi restaurants. Pour entrer à ce site touristique, les touristes doivent payer le billet jusqu'à 3000 rupiahs par personne, qui sera utilisé pour la gestion et la maintenance des installations dans ce lieu touristique. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleurs ayant pour le titre le certificat de naissance de Braille de Bandung. La ville de Bandung, en province de Java West, sous la direction de Ridwan Kamil, Le monument appelé Camp Émile a été nommé par l'UNESCO comme l'un des réseaux de villes créatives à la fin de 2015. Pour maintenir le titre comme ville créative du monde, Camp Émile attend les habitants de Bandung priorise toujours l'unicité dans les œuvres créées. Par exemple, à la fin de 2016, le gouvernement municipal de Bandung a fait un passage pour les piétons avec la forme unique d'une certaine carrefour à partir des formes ou images des jeux pour les enfants à des instruments de musique traditionnelle de l'Ouest de Java tels que l'anklung et la flûte. Et au début de l'année, le gouvernement municipal Bandung a relancé une nouvelle innovation sous la forme d'un certificat de naissance en braille. Chers auditeurs, le 4 janvier, toutes les nations du monde ont commémoré la Journée mondiale de Braille. Cette date est prise à partir de la date de la naissance de Louis Braille, un garçon aveugle de France, le 4 janvier 1809. Grâce à sa persistance d'introduire le système de l'écriture de son création, les personnes aveugles peuvent acquérir et accroître les connaissances comme une personne voyante ou ordinaire. Lié à la Journée mondiale du Braille, le gouvernement municipal de Bandung, en particulier le Bureau de la population et du registre civil de Bandung, fait une nouvelle percée en lançant un certificat de naissance avec le lettrage du Braille le 20 décembre 2016. Ce programme est le premier en Indonésie. Le programme de certificat de naissance avec le lettrage du Braille est un témoignage de la préoccupation du gouvernement envers les personnes handicapés, en particulier les aveugles, et d'améliorer le service à la communauté ayant des besoins spéciaux. Le chef du Bureau de la population et du registre civil de Bandung, Popong Wenur Aini, a dit qu'elle collabore avec le département des affaires sociales avant de réaliser ce certificat de naissance du Braille. Le certificat national de naissance des enfants aveugles sera accompagné par le certificat Braille. Pour l'écriture de ce certificat, le Bureau de la population et du registre civil de Bandung, en collaboration avec l'institution sociale de Binanetra PSBN Via Taguna Bandung, Popong a confirmé que tout le processus de création et de publication de certificat de naissance Braille est gratuit et prend un maximum de 8 jours ouvrables. Le secrétaire du directeur général de la population et du registre civil de l'Indonésie, Igede Surata, a affirmé que ce certificat de naissance du Braille avait montré que l'État s'efforçait de répondre aux besoins des aveugles. S'il n'y a pas d'obstacle dans ce programme, à la fois du côté de la régulation et technique, ce programme sera développé et sera appliqué dans toute l'Indonésie pour 3,2 millions handicapés, notamment les aveugles. Serviteur, à la même occasion, le maire de Bandung, Ridwan Kamil, a apprécié la performance du Bureau de la population et du registre civil de Bandung qui présente le certificat de naissance du Braille. Il cible qu'actuellement 700 000 aveugles à Bandung obtiendront le certificat de naissance du Braille. Il a ajouté que ce certificat peut être obtenu lorsque l'enfant est né à l'hôpital. Série Talk, c'est l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de Music Edition de vendredi. Pour cette édition, je vais vous présenter la chanteuse de dangdut, qui est très connue, le rythme de dangdut, qui est très populaire en Indonésie. Et pour ce soir, avec la chanteuse Ike Nurjana. Bon, alors, pour commencer notre rencontre, allez d'abord écouter la chanson de Ike Nurjana intitulée Terlena. Bonne écoute. Vous savez, chers amis, vous venez d'écouter la chanson Terlena ou le distrait chantée par Ike Nurjana. Et vous avez aussi, grâce à cette chanson, le nom de Ike Nurjana est bien populaire en Indonésie. De plus, Anugerah Musik Indonesia, un moyen qui donne les récompenses aux musiciens en Indonésie, a installé Ike Nurjana comme meilleure chanteuse de dangdut pendant 3 ans, 1997, 1998 et 1999. D'autres prix pour Ike Nurjana est comme Greatest de chanteuse de dangdut 2002 ou la meilleure de dangdut, c'est-à-dire la meilleure de chanteuse de dangdut 2002. Ce prix est comme le résultat de la mise en commun faite par la chaîne privée en Indonésie. La popularité de Ike Nurjana, dont le vrai nom est Hartini Ervi Nurjana, est non seulement en Indonésie, mais aussi aux pays voisins, comme la Malaisie, Singapour et Brunei Darussalam, ainsi que la Thaïlande, et aussi le Japon. Vous avez, outre le chanteur, Ike Nurjana est diplômé en économie de la faculté d'économie. Elle a diplômé en 1998. Et en même temps, en 1998, ses fans au Japon l'ont invité pour se présenter. Parce qu'au Japon, le rythme de dangdut est si populaire. Bon, chers amis, avant de continuer notre rencontre avec la chanteuse Ike Nurjana, écoutez la chanson Bunga Cinta, chantée par Ike Nurjana. Bonne écoute. Thank you. Chers amis, vous écoutez toujours le magazine de musique de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta et vous venez d'écouter la chanson Bunga Cinta de Ikke Nurjanah. Chers amis, la profession de Ikke Nurjanah maintenant, non seulement comme chanteuse, mais aussi dans le talk show ainsi que les affaires de la gestion commerciale et elle est aussi comme intervenant ou le juge dans le concours musical. Mais pour Ikke Nurjanah, chanter est le cœur de sa vie. Chers amis, c'était le magazine de musique de la voix de l'Indonésie, édition de vendredi avec Ikke Nurjanah. Et avant de vous quitter, écoutez encore la dernière chanson intitulée Munafik ou Hypocrite. Et en entendant cette chanson, nous terminons notre programme, le magazine de musique avec la chanteuse Ikke Nurjanah au rythme de dangdut. Merci beaucoup de votre fidélité et attention. Au revoir.
Notre programme pour ce soir, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter, Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.